Alphonse Daudet. Le Petit Chose, deuxième partie. Chapitre 8. Une lecture au passage du saumon. Enfin, je le terminai, ce fameux poème. J'en vins à bout après 4 mois de travail, et je me souviens qu'arrivé au dernier vers, je ne pouvais plus écrire tellement les mains me tremblaient de fièvre, d'orgueil, de plaisir, d'impatience. Dans le clocher de Saint-Germain, ce fut un événement. Jacques, à cette occasion, redevint pour un jour le Jacques d'autrefois, le Jacques du cartonnage et des petits pots de colle. Il me relia un magnifique cahier sur lequel il voulut recopier mon poème de sa propre main. Et c'était à chaque vers des cris d'admiration, des trépignements d'enthousiasme. Moi, j'avais moins de confiance dans mon œuvre. Jacques m'aimait trop. Je me méfiais de lui. J'aurais voulu faire lire mon poème à quelqu'un d'impartial et de sûr. Le diable, c'est que je ne connaissais personne. Pourtant, à la crèmerie, les occasions ne m'avaient pas manqué de faire des connaissances. Depuis que nous étions riches, je mangeais à table d'hôte dans la salle du fond. Il y avait là une vingtaine de jeunes gens, des écrivains, des peintres, des architectes, ou, pour mieux dire, de la graine de tout cela. Aujourd'hui, la graine a monté. Quelques-uns de ces jeunes gens sont devenus célèbres, et quand je vois leurs noms dans les journaux, cela me crève le cœur, moi qui ne suis rien. À mon arrivée à la table, tout ce jeune monde m'accueillit à bras ouverts, mais comme j'étais trop timide pour me mêler aux discussions, on m'oublia vite. Et je fus aussi seul au milieu de tous, que je l'étais à ma petite table dans la salle commune. J'écoutais, je ne parlais pas. Une fois par semaine, nous avions à dîner avec nous un poète très fameux, dont je ne me rappelle plus le nom, mais que ces messieurs appelaient Bhagavat, du titre d'un de ses poèmes. Ces jours-là, on buvait du Bordeaux à 18 sous, puis, le dessert venu, le grand Bhagavat récitait un poème indien. C'était sa spécialité, les poèmes indiens. Il en avait un intitulé « Laksamana », un autre « Dasarata », un autre « Kalasala », un autre « Bhagirata », et puis « Sudra »,« Kunosepa », »,« Vishwamitra ». Mais le plus beau de tous était encore « Bhagavat ». Ah, quand le poète récitait « Bhagavat », toute la salle du fond croulait. On hurlait, on trépignait, on montait sur les tables. J'avais à ma droite un petit architecte à nez rouge qui sanglotait dès le premier vers et tout le temps s'essuyait les yeux avec ma serviette. Moi, par entraînement, je criais plus fort que tout le monde. Mais, au fond, je n'étais pas fou de Bhagavat. En somme, ces poèmes indiens se ressemblaient tous. C'était toujours un lotus, un condor, un éléphant et un buffle. Quelquefois, pour changer, les lotus s'appelaient lotos. Mais, à part cette variante, toutes ces rhapsodies se valaient. Ni passion, ni vérité, ni fantaisie. Des rimes sur des rimes, une mystification. Voilà ce qu'en moi-même, je pensais du grand Bhagavat. Et je l'aurais peut-être jugé avec moins de sévérité si on m'avait, à mon tour, demandé quelques vers. Mais on ne me demandait rien, et cela me rendait impitoyable. Du reste, je n'étais pas le seul de mon avis sur la poésie hindoue. J'avais mon voisin de gauche qui n'y mordait pas non plus. Un singulier personnage, mon voisin de gauche. Huileux, râpé, luisant, avec un grand front chauve et une longue barbe où couraient toujours quelques fils de vermicelle. C'était le plus vieux de la table et de beaucoup aussi le plus intelligent. Comme tous les grands esprits, il parlait peu, ne se prodiguait pas. Chacun le respectait. On disait de lui « Il est très fort, c'est un penseur ». Moi, de voir la grimace ironique qui tordait sa bouche en écoutant les vers du grand Bhagavat, j'avais conçu de mon voisin de gauche la plus haute opinion. Je pensais « Voilà un homme de goût, si je lui disais mon poème ». Un soir, comme on se levait de table, je fis apporter un flacon d'eau-de-vie et j'offris au penseur de prendre un petit verre avec moi. Il accepta. Je connaissais son vice. Tout en buvant, j'amenai la conversation sur le grand Bhagavat. Et je commençai par dire beaucoup de mal des lotus, des condors, des éléphants et des buffles. C'était de l'audace. Les éléphants sont si rancuniers. Pendant que je parlais, le penseur se versait de l'eau-de-vie sans rien dire. De temps en temps, il souriait et remuait approbativement la tête en faisant « Ouah, ouah !» Enhardi par ce premier succès, je lui avouai que moi aussi j'avais composé un grand poème et que je désirais le lui soumettre. « Ouah, ouah !» fit encore le penseur sans sourciller. En voyant mon homme si bien disposé, je me dis « C'est le moment !» et je tirai mon poème de ma poche. Le penseur, sans s'émouvoir, se versa un cinquième petit verre, me regarda tranquillement dérouler mon manuscrit. Mais, au moment suprême, il posa sa main de vieil ivrogne sur ma manche. « Un mot, jeune homme, avant de commencer. Quel est votre critérium ?» Je le regardai avec inquiétude. « Votre critérium ? » fit le terrible penseur en haussant la voix. « Quel est votre critérium ?» Hélas, mon critérium, je n'en avais pas. Je n'avais jamais songé à en avoir un. Et cela se voyait, du reste, à mon œil étonné, à ma rougeur, à ma confusion. Le penseur se leva indigné. « Comment, malheureux jeune homme, vous n'avez pas de critérium ? Inutile alors de me lire votre poème. Je sais d'avance ce qu'il vaut. » Là-dessus, il se versa coup sur coup deux ou trois petits verres qui restaient encore au fond de la bouteille, prit son chapeau et sortit en roulant des yeux furibonds. Le soir, quand je contai mon aventure à l'ami Jacques, il entra dans une belle colère. « Ton penseur est un imbécile, me dit-il. Qu'est-ce que cela fait d'avoir un critérium ? Les Bengalis en ont-ils un ? Un critérium ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Où ça se fabrique-t-il ? A-t-on jamais vu ? Marchand de critérium, va ! » Mon brave Jacques, il en avait les larmes aux yeux. De l'affront que mon chef-d'œuvre et moi, nous venions de subir. « Écoute, Daniel, reprit-il au bout d'un moment, j'ai une idée. Puisque tu veux lire ton poème, si tu le lisais chez Pierrotte un dimanche... »«
Chez Pierrotte ? Oh, Jacques !»«
Pourquoi pas ? Dame, Pierrotte n'est pas un aigle, mais ce n'est pas une taupe non plus. Il a le sens très net, très droit. Camille, elle, serait un juge excellent, quoique un peu prévenu. La dame de grand mérite a beaucoup lu. Ce vieil oiseau de père Lalouette lui-même n'est pas si fermé qu'il en a l'air. D'ailleurs, Pierrotte connaît à Paris des personnes très distinguées qu'on pourrait inviter pour ce soir-là. Qu'en dis-tu ? Veux-tu que je lui en parle ? » Cette idée d'aller chercher des juges au passage du Saumon ne me souriait guère. Pourtant, j'avais une telle démangeaison de lire mes vers qu'après avoir un brin rechigné, j'acceptai la proposition de Jacques. Dès le lendemain, il parla à Pierrotte. Que le bon Pierrotte eût exactement compris ce dont il s'agissait, voilà ce qui est fort douteux. Mais comme il voyait là une occasion d'être agréable aux enfants de mademoiselle, le brave homme dit oui sans hésiter, et tout de suite on lança des invitations. Jamais le petit salon Jonquille ne s'était trouvé à pareille fête. Pierrotte, pour me faire honneur, avait invité ce qu'il y a de mieux dans le monde de la porcelaine. Le soir de la lecture, nous avions là, en dehors du personnel accoutumé, monsieur et madame Passageon, avec leur fils le vétérinaire, un des plus brillants élèves de l'école d'Alfort. Férouillat cadet, franc-maçon, beau parleur, qui venait d'avoir un succès de tous les diables à la loge du Grand Orient. Puis les Fougeroux, avec leurs six demoiselles rangées en tuyaux d'orgue, et enfin Férouillat l'aîné, un membre du caveau, l'homme de la soirée. Quand je me vis en face de cet important réopage, vous pensez si je fus ému. Comme on leur avait dit qu'ils étaient là pour juger un ouvrage de poésie, tous ces braves gens avaient cru devoir prendre des physionomies de circonstances, froides, éteintes, sans sourire. Ils parlaient entre eux à voix basse et gravement, en remuant la tête comme des magistrats. Pierrotte, qui n'y mettait pas tant de mystère, les regardait tous d'un air étonné. Quand tout le monde fut arrivé, on se plaça. J'étais assis le dos au piano. L'auditoire, en demi-cercle autour de moi, à l'exception du vieux Lalouette qui grignotait son sucre à la place habituelle. Après un moment de tumulte, le silence se fit et, d'une voix émue, je commençai mon poème. C'était un poème dramatique pompeusement intitulé « La comédie pastorale ». Dans les premiers jours de sa captivité au collège de Sarlande, le petit chose s'amusait à raconter à ses élèves des historiettes fantastiques pleines de grillons, de papillons et autres bestioles. C'est avec trois de ces petits contes dialogués et mis en vers que j'avais fait la comédie pastorale. Mon poème était divisé en trois parties. Mais ce soir-là, chez Pierrotte, je ne leur lus que la première partie. Je demande la permission de transcrire ici ce fragment de la comédie pastorale, non pas comme un morceau choisi de littérature, mais seulement comme pièce justificative à joindre à l'histoire du petit chose. Figurez-vous pour un moment, mes chers lecteurs, que vous êtes assis en rond dans le petit salon jonquille et que Daniel et Seth, tout tremblants, récitent devant vous. Les aventures d'un papillon bleu. Le théâtre représente la campagne. Il est 6 heures du soir. Le soleil s'en va. Au lever du rideau, un papillon bleu et une jeune bête à bon Dieu, de sexe mâle, causent à cheval sur un brin de fougère. Ils se sont rencontrés le matin et ont passé la journée ensemble. Comme il est tard, la bête à bon Dieu fait mine de se retirer. Le papillon. « Quoi ? Tu t'en vas déjà ?» La bête à bon Dieu. « Dame, il faut que je rentre !» « Il est tard, songez donc !» Le papillon. « Attends un peu, que diantre ! Il n'est jamais trop tard pour retourner chez soi. Moi, d'abord, je m'ennuie à ma maison. Et toi ? C'est si bête, une porte, un mur, une croisée. Quand au dehors, on a le soleil, la rosée, et les coquelicots, et le grand air, et tout. Si les coquelicots ne sont pas de ton goût, il faut le dire. » La bête a bon Dieu. « Hélas, monsieur, je les adore !» Le papillon. « Eh bien, alors, Nigo, ne t'en va pas encore. Reste avec moi. Tu vois, il fait bon, l'air est doux. » La bête à bon Dieu. « Oui, mais... » Le papillon la poussant dans l'herbe. « Eh, roule-toi dans l'herbe, elle est à nous !» La bête à bon Dieu se débattant. « Non, laissez-moi, parole, il faut que je m'en aille !» Le papillon. « Chut ! Entends-tu ?» La bête à bon Dieu, effrayée. « Quoi donc ?» Le papillon. « Cette petite caille qui chante en se grisant dans la vigne à côté. Hein, la bonne chanson pour ce beau soir d'été. Et comme c'est joli de la place où nous sommes. » La bête à bon Dieu. « Sans doute, mais... » Le papillon. « Tais-toi !» La bête à bon Dieu. « Quoi donc ?» Le papillon. « Voilà des hommes !» Passent des hommes. La bête à bon Dieu bat après un silence. « L'homme, c'est très méchant, n'est-ce pas ?» Le papillon. « Très méchant !» La bête à bon Dieu. « J'ai toujours peur qu'un d'eux m'aplatisse en marchant. Ils ont de si gros pieds, et moi des reins si frêles. Vous, vous n'êtes pas grand, mais vous avez des ailes. C'est énorme !» Le papillon. Parbleu, mon cher, si ces lourdeaux de paysans te font peur, grimpe-moi sur le dos. Je suis très fort des reins, moi. Je n'ai pas des ailes en pelure d'oignon comme les demoiselles. Et je veux te porter où tu voudras, aussi longtemps que tu voudras. La bête à bon Dieu. Oh non, monsieur, merci, je n'oserai jamais. Le papillon. C'est donc bien difficile de grimper là ? La bête à bon Dieu. « Non, mais... » Le papillon. « Grimpe donc, imbécile !» La bête à bon Dieu. « Vous me ramènerez chez moi, bien entendu, car sans cela... » Le papillon. « Sitôt parti, sitôt rendu !» la bête à bon Dieu grimpant sur son camarade. « C'est que le soir, chez nous, nous faisons la prière, vous comprenez ?» Le papillon. « Sans doute, un peu plus en arrière. Là, maintenant, silence à bord, je lâche tout. » Prout ! Il s'envole. Le dialogue continue en l'air. « Mon cher, c'est merveilleux, tu n'es pas lourd du tout. » La bête à bon Dieu, effrayée. « Ah, monsieur !» Le papillon. « Eh bien, quoi ?» La bête à bon Dieu. « Je n'y vois plus, la tête me tourne, je voudrais bien descendre. » Le papillon. « Es-tu bête ? Si la tête te tourne, il faut fermer les yeux. Les as-tu fermés ?» La bête à bon Dieu fermant les yeux. « Oui !» Le papillon. « Ça va mieux ?» La bête à bon Dieu avec effort. « Un peu mieux !» Le papillon riant sous cap. « Décidément, on est mauvais aéronautes dans ta famille. » La bête à bon Dieu. « Oh oui !» Le papillon.
« Ce n'est pas votre faute si le guide ballon n'est pas encore trouvé. »
La bête à bon Dieu.
« Oh non !»
Le papillon. « Ça, monseigneur, vous êtes arrivé. » Il se pose sur un muguet. La bête à bon Dieu, ouvrant les yeux.
« Pardon, mais ce n'est pas ici que je demeure. »
Le papillon.
« Je sais, mais comme il est encore de très bonne heure, je t'ai mené chez un muguet de mes amis. On va se rafraîchir le bec, c'est bien permis. »
La bête à bon Dieu.
« Oh, je n'ai pas le temps !»
Le papillon.
« Bah, rien qu'une seconde !»
La bête à bon Dieu.
« Et puis, je ne suis pas reçu, moi, dans le monde. »
Le papillon.
« Viens donc, je te ferai passer pour mon bâtard, tu seras bien reçu, va. »
La bête à bon Dieu.
« Puis, c'est qu'il est tard. »
Le papillon.
« Eh non, il n'est pas tard, écoute la cigale. »
La bête à bon Dieu à voix basse.
« Puis, je n'ai pas d'argent. »
Le papillon l'entraînant.
« Viens, le muguet régale. »
Ils entrent chez le muguet, la toile tombe. Au second acte, quand le rideau se lève, il fait presque nuit. On voit les deux camarades sortir de chez le muguet. La bête à bon Dieu est légèrement ivre. Le papillon tendant le dos.
« Et maintenant, en route !»
La bête à bon Dieu grimpant bravement.
« En route !»
Le papillon.
« Eh bien, comment trouves-tu mon muguet ?»
La bête à bon Dieu.
« Mon cher, il est charmant. Il vous livre sa cave et tout, sans vous connaître. »
Le papillon regardant le ciel.
« Oh oh ! Phébé qui met le nez à sa fenêtre. Il faut nous dépêcher. »
La bête à bon Dieu.
« Nous dépêcher ? Pourquoi ?»
Le papillon.
« Tu n'es donc plus pressé de retourner chez toi ?»
La bête à bon Dieu.
« Oh, pourvu que j'arrive à temps pour la prière. D'ailleurs, ce n'est pas loin chez nous, c'est là derrière. »
Le papillon.
« Si tu n'es pas pressé, je ne le suis pas, moi. »
La bête à bon Dieu avec effusion.
« Quel bon enfant tu fais ! Je ne sais pas pourquoi tout le monde dépasse ton ami sur la terre. On dit de toi, c'est un bohème, un réfractaire, un poète, un sauteur. »
Le papillon.
Tiens, tiens, et qui dit ça ?
La bête à bon Dieu.
Mon Dieu, le scarabée.
Le papillon.
Ah oui, ce gros poussa, il m'appelle sauteur parce qu'il a du ventre.
La bête à bon Dieu.
« C'est qu'il n'est pas le seul qui te déteste. »
Le papillon.
« Ah ! Dis !»
La bête à bon Dieu.
« Ainsi, les escargots ne sont pas tes amis, va. Ni les scorpions, pas même les fourmis. »
Le papillon.
« Vraiment ?»
La bête à bon Dieu confidentielle.
« Ne fais jamais ta cour à l'araignée, elle te trouve affreux. »
Le papillon.
On l'a mal renseigné.
La bête à bon Dieu.
Eh, les chenilles sont un peu de son avis.
Le papillon.
Je crois bien. Mais dis-moi, dans le monde où tu vis, car enfin tu n'es pas du monde des chenilles, suis-je aussi mal vu ?
La bête à bon Dieu.
Dame, c'est selon les familles. La jeunesse est pour toi. Les vieux, en général, trouvent que tu n'as pas assez de sens moral.
Le papillon, tristement. Je vois que je n'ai pas beaucoup de sympathie, en somme. La bête à bon Dieu.
Ma foi, non, mon pauvre. Les orties t'en veulent. Le crapaud te hait jusqu'au grillon. Quand il parle de toi, qu'il dit ce papillon.
Le papillon. Est-ce que tu me hais, toi, comme tous ces drôles? La bête à bon Dieu.
Moi, je t'adore. On est si bien sur tes épaules. Et puis, tu me conduis toujours chez les Muguet. C'est amusant. Dis donc, si je te fatiguais, nous pourrions faire encore une petite pause quelque part. Tu n'es pas fatigué, je suppose.
Le papillon. Je te trouve un peu lourd, ce n'est pas l'embarras. La bête à bon Dieu montant les Muguet.
Alors, entrons ici, tu te reposeras.
Le papillon.
Ah, oh, merci, des Muguet, toujours la même chose. J'aime bien mieux à côté.
La bête à bon Dieu toute rouge.
Chez la rose? Oh non, jamais!
Le papillon l'entraînant.
Viens donc, on ne nous verra pas.
Ils entrent discrètement chez la rose. La toile tombe.
Au troisième acte.
Mais je ne voudrais pas, mes chers lecteurs, abuser plus longtemps de votre patience. Les vers, par le temps qui court, n'ont pas le don de plaire, je le sais. Aussi, j'arrête là mes citations et je vais me contenter de raconter sommairement le reste de mon poème. Au troisième acte, il est nuit tout à fait. Les deux camarades sortent ensemble de chez la rose. Le papillon veut ramener la bête à bon Dieu chez ses parents. Mais celle-ci s'y refuse. Elle est complètement ivre, fait des cabrioles sur l'herbe et pousse des cris séditieux. Le papillon est obligé de l'emporter chez elle. On se sépare sur la porte en promettant de se revoir bientôt. Et alors, le papillon s'en va tout seul dans la nuit. Il est un peu ivre lui aussi. Mais son ivresse est triste. Il se rappelle les confidences de la bête à bon Dieu et se demande amèrement pourquoi tant de monde le déteste, lui qui n'a jamais fait de mal à personne. Ciel sans lune, le vent souffle, la campagne est toute noire. Le papillon a peur, il a froid. Mais il se console en songeant que son camarade est en sûreté au fond d'une couchette bien chaude. Cependant, on entrevoit dans l'ombre de gros oiseaux de nuit qui traversent la Seine d'un vol silencieux. L'éclair brille. Des bêtes méchantes, embusquées sous des pierres, ricanent en se montrant le papillon. « Nous le tenons » disent-elles. Et tandis que l'infortuné va de droite et de gauche plein d'effroi, un chardon au passage le larde d'un grand coup d'épée, un scorpion l'éventre avec ses pinces, une grosse araignée velue lui arrache un pan de son manteau de satin bleu, et, pour finir, une chauve-souris lui casse les reins d'un coup d'aile. Le papillon tombe, blessé à mort. Tandis qu'il râle sur l'herbe, les orties se réjouissent et les crapauds disent
« C'est bien fait !»
À l'aube, les fourmis qui vont au travail avec leurs saquettes et leurs gourdes trouvent le cadavre au bord du chemin. Elles le regardent à peine et s'éloignent sans vouloir l'enterrer. Les fourmis ne travaillent pas pour rien. Heureusement, une confrérie de nécrophores vient à passer par là. Ce sont, comme vous savez, de petites bêtes noires qui ont fait vœu d'ensevelir les morts. Pieusement, elles s'attellent au papillon défunt et le traînent vers le cimetière. Une foule curieuse se presse sur leur passage et chacun fait des réflexions à haute voix. Les petits grillons bruns, assis au soleil devant leur porte, disent gravement « Il aimait trop les fleurs !»« Il courait trop la nuit !» ajoutent les escargots. Et les scarabées à gros ventre se dandinent dans leurs habits d'or en grommelant « Trop bohème ! Trop bohème !» Parmi toute cette foule, pas un mot de regret pour le pauvre mort. Seulement, dans les plaines d'alentour, les grands lys ont fermé et les cigales ne chantent pas. La dernière scène se passe dans le cimetière des papillons. Après que les nécrophores ont fait leur œuvre, un hanneton solennel, qui a suivi le convoi, s'approche de la fosse et, se mettant sur le dos, commence l'éloge du défunt. Malheureusement, la mémoire lui manque. Il reste là, les pattes en l'air, gesticulant pendant une heure et s'entortillant dans ses périodes. Quand l'orateur a fini, chacun se retire, et alors, dans le cimetière désert, on voit la bête à bon Dieu des premières scènes sortir de derrière une tombe. Tout en larmes, elle s'agenouille sur la terre fraîche de la fosse et dit une prière touchante pour son pauvre petit camarade qui est là.